RCF.
Michel Sauquet, dans ce qu'on disait précédemment de la foi, qu'on assimilait à un chemin, un itinéraire. Alors quelquefois vous disiez ça ressemble à une autoroute, d'autres fois ça ressemble à une piste et puis d'autres fois à une tôle ondulée qui nous secoue pas mal. On pourrait peut-être donner le sentiment qu'on envisage tout ça d'un point de vue très individualiste, très autonome. En réalité, on fait quand même partie d'une communauté, la communauté des croyants. Il y a une église quand même.
Oui, et là, je nécessite de parler de l'aide de l'esprit, mais il faut parler aussi de l'aide des autres, de l'aide de nos communautés, de nos fraternités, de notre église, bien entendu. Dur de croire tout seul. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose qu'il faut préciser, sur quoi il faut insister. Et heureusement que nous ne sommes pas seuls à croire, et heureusement que les uns et les autres, avec nos essais-erreurs, nous arrivons à nous entraîner dans la foi.
Même si cette église et cette communauté, quelquefois, nous donnent aussi le sentiment d'enfermement ou d'être figé.
Bien sûr, mais on peut être fidèle à une église tout en n'étant pas d'accord avec tout ce qui s'y passe et tout ce qui s'y dit. Je me permets de reprendre l'exemple de François d'Assise. Il vivait à une époque où les dérives de l'église étaient bien pires qu'aujourd'hui, parce que à toutes ces dérives de comportement s'ajoutaient souvent des lieux de richesse absolument extravagants. Et François aurait très bien pu dire « je quitte cette église, je ne veux pas en entendre parler », comme l'ont fait beaucoup d'autres à cette époque-là. Mais il a insisté, mordicus, pour rester dans cette église, parce qu'il y croyait. Et même, disait-il, l'un prêtre le plus dépravé soit-il, je le respecte entièrement parce que c'est lui qui consacre l'hostie. Il peut être ce qu'il est, mais pour moi, c'est quelqu'un de sacré.
Alors, dans votre livre, vous consacrez un chapitre à la question de la bien-pensance. Et vous proposez même un abécédaire avec tout un tas de mots qui parfois donnent bonne conscience. Il y a un politiquement correct qui vous agace et qui ne supporte pas la remise en cause?
Il y en a plein. Dire que ça m'agace, non, parce que qui suis-je pour juger tout ça? C'est pas inutile là aussi de prendre du recul par rapport à certains mots qui paraissent des évidences et qui ne le sont pas. Par exemple, de la bienveillance. On devrait tous être bienveillants, mais sans naïveté. Bienveillant, ça veut dire vouloir du bien, c'est bien-veillant, vouloir du bien, mais veiller au grain aussi. Et donc vouloir du bien à notre entourage en se bordant les yeux, est-ce que c'est toujours lui rendre service? C'est tout l'enjeu de la correction fraternelle, qui est un exercice difficile auquel j'avoue être complètement nul, je n'y arrive pas.
On peut ajouter à cette mot de bienveillance l'aide et la charité, par exemple?
Oui, on peut. Juste là, parce que le mot est quand même très accolé à bienveillance, c'est celui d'accueil. Au sein de l'institution Église, par exemple, le mot d'accueil a pratiquement une valeur de sacré. C'est une évidence à ne pas remettre en question. Alors tant mieux, après tout. Sauf que si les divorcés et remariés sont accueillis avec bienveillance dans les assemblées catholiques, ils ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie. Sauf que on dit des personnes homosexuelles qu'elles doivent être accueillies avec bienveillance. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai jamais entendu dire que l'Église doive aussi accueillir les personnes hétérosexuelles. Je ne comprends pas pourquoi. Donc attention aussi à tous ces mots, oui.
Qui sont à double tranchant,
qui peuvent être... Vous voyez, par exemple, je reviens au cas des personnes homosexuelles. On dit dans le catéchisme de l'Église catholique qu'ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse et qu'on évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Je note juste que ce mot de compassion est un petit peu une forme de discrimination, me semble-t-il.
D'autres mots qui vous posent question dans la manière dont ils sont utilisés et dans la manière dont ils sont mis en pratique, en particulier dans l'Église?
Oui, alors il y a l'aide. Alors l'aide, moi j'y crois beaucoup. J'ai passé toute ma vie dans le domaine de la coopération internationale, donc j'y crois énormément. Mais j'ai remarqué souvent qu'il y a un manque de réflexion qui fait que la charité peut avoir des effets contraires à ce qu'elle vise. Saint Vincent de Paul disait « J'espère qu'un jour les pauvres nous pardonneront la charité que nous leur avons faite. » Parce qu'avec la charité, on peut décider à la place des autres, on peut... opérer certains dons, par exemple, dans le tiers-monde, qui sont une catastrophe pour les économies locales. Je pense à l'exportation de poulets ou de textiles au Sénégal, etc. Donc attention à à ne pas mettre de paternalisme dans l'aide.
Il est triste de voir que derrière de présumées œuvres altruistes, on réduit l'autre à la passivité. Ces mots sont tirés de l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, Michel Socquet. Et donc, il résume ce que vous venez de dire à l'instant, une forme de paternalisme ou de volonté de bien faire, mais qui en réalité provoque quelquefois des situations bien pires que celles qu'elles prétendent résoudre. Pourquoi est-ce que vous abordez toutes ces questions dans un livre consacré à la question du doute ?
Parce que pour moi, le doute, à nouveau, c'est une prise de distance. Et que je dis qu'il faut prendre de la distance par rapport à tous ces mots « évidence ». Effectivement, on peut très bien penser du livre qu'il est un peu hétéroclite, ça je ne m'en cache pas. Il y a des aspects très très différents, mais pour moi, le doute, étudier le doute est d'autant plus intéressant qu'on essaye de balayer l'ensemble des domaines auxquels il peut s'appliquer, s'il est constructif.
Parmi les mots que vous retenez et qui sont peut-être à interroger ou vis-à-vis desquels il faut peut-être prendre un peu de distance, il y a le mot « liberté » aussi.
La liberté érigée comme valeur suprême, là aussi ça me fait un petit peu peur. J'ai la liberté, je fais ce que je veux. Alors vraiment, regardez aussi pendant la crise, moi j'ai la liberté de ne pas porter de masque, de ne pas prendre de précautions, de faire des fêtes sauvages, parce que c'est ma liberté. Ben oui, sauf que c'est une liberté qui condamne celle des autres. Et ça, je trouve que on a parfois des discours trop complaisants vis-à-vis de la liberté. La liberté, ça peut être aussi une irresponsabilité.
Et vis-à-vis de la tolérance ?
Alors la tolérance, on dit que bon, ça aide à supporter la différence, c'est un début d'ouverture, mais au fond, est-ce que par définition, tolérer l'autre ne sous-entend pas qu'on désapprouve ce qu'il est ou une partie de ce qu'il est ? Si je vous tolère, je veux dire que je suis ouvert, mais je suis pas une brute, mais néanmoins que vous n'êtes pas dans la ligne normale des choses. Donc il peut y avoir une sorte de paternalisme, on regarde un petit peu de haut. Et moi je préfère à la tolérance le mot de ou l'attitude de respect et de reconnaissance, que je sois d'accord ou non avec la manière dont l'autre se conduit. Je fais un effort pour le reconnaître dans son altérité pleine et entière. Et je voudrais juste là-dessus... juste vous citer une phrase de Denis Girard, qui a beaucoup exploré la question du dialogue interreligieux. Je trouve cette phrase magnifique. « La tolérance, c'est quand on constate qu'on n'a pas les mêmes idées que les autres et on leur pardonne. Le dialogue, c'est quand on constate qu'on n'a pas les mêmes idées que les autres et on accepte que ça vous fasse changer. »
Et c'est en fait tout le processus que vous essayez de décrire dans ce livre. Se laisser bousculer jusqu'à peut-être se laisser transformer.
Oui. Absolument, si on est prêt à ça, on ne l'est pas toujours.
Qu'est-ce qui résiste ? Qu'est-ce qui peut faire qu'on n'est pas prêt ?
Que justement, on érige notre liberté individuelle comme un étendard, qu'on veut pas qu'on se mêle de nos affaires, on veut qu'on nous fiche la paix. C'est terrible, on n'est pas seul au monde.
À partir de quand est-ce qu'on peut considérer que laisser l'autre nous transformer, c'est se renier soi-même, c'est se trahir soi-même ?
Alors non, c'est vraiment, alors là c'est tout l'enjeu de ce que, là on a parlé d'aide internationale, de ce que des ONG appellent aujourd'hui la négociation socioculturelle. Comment est-ce que je peux, sans renier ce que je suis, mes méthodes, ce à quoi je crois, etc., et sans ériger l'autre sur un piédestal, trouver ce commun dont on parlait précédemment qui va nous permettre d'avancer ensemble ? Comment est-ce que je vais accepter qu'on se change l'un l'autre ? Et si j'osais, une dernière référence à François d'Assise, cette rencontre avec le sultan dont on a célébré le 800e anniversaire récemment, le sultan d'Égypte, en pleine croisade. François était allé le rencontrer, soit pour le convertir, soit pour obtenir le martyr. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il y a eu de façon extraordinaire un dialogue entre l'un et l'autre, où sans se renier l'un et l'autre, François n'a pas converti le sultan, mais on s'est écouté, on a dialogué, et on s'est laissé quand même un peu changer par l'autre, oui, dans sa manière de voir, de voir le monde, de voir la différence.
Jusqu'où ? Jusqu'où se laisser changer, encore une fois ? Se laisser changer un peu ?
Je reviens à l'image du curseur. Dans ce qu'on peut négocier avec l'autre différent, il y a ce sur quoi on n'a pas envie de céder, de ce qui met en jeu des principes fondamentaux de dignité, et ce qui peut faire l'objet de ce que les Canadiens appellent des accommodements raisonnables, là où on peut lâcher du lest. Où est-ce que je mets le curseur de l'acceptable et de l'inacceptable ? Je pars d'un curseur de l'acceptable qui est complètement d'un côté, et progressivement, en prenant du recul et en essayant de mieux comprendre l'autre, je rapproche ce curseur de l'autre extrémité. Je crois beaucoup à cette image.
À demain pour conclure, Michel Sauquet. Merci.
Merci.